magic swirling ship.
J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur. Danse, danse, bouge ton corps, la musique vaut de l'or. Garde bien le tempo et fais craquer tous tes os. Danse, danse, bouge un peu, mettons-nous en queue-le-le. La musique brille de mille feux, c'est mon amour qui le veut. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur. Bouge, bouge la peau du tempo qui danse la polka du bateau. Quand je me regarde dans la glace, jamais je ne me lasse. Danse, danse, c'est la danse, c'est la danse qui balance. Dans la tête, j'ai des rêves qui jamais ne s'achèvent. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur. Je chante tout le temps, j'ai de la musique plein les dents. Je tape sur la poubelle pour que la musique soit belle. Je danse le tango au rythme des haricots. Jamais je ne m'arrête parce que c'est trop chouette. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur.
J'ai les mains dans les poches, j'ai les pieds dans les portes, et bien. Je glisse les pavés dans mes baskets usées, tout va bien. J'ai traîné dans tous les bars la fièvre du samedi soir, il est tard. Sur les angoisses, eh bien. Tu raques ou bien tu braques, tu craques ou bien tu claques, tout va bien. J'aimerais voir passer ce soir une espèce d'archange noir bizarre, une espèce de rôdeur qui me frôle et me fait peur.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand et réalisée par l'ami Xavier Lecomte, que je remercie très chaleureusement. Cette émission est consacrée à Vincent Ravalec et à son nouveau roman « Mémoires intimes d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile » qui vient de paraître aux éditions Fayard. Ce livre, me semble-t-il, est de toute actualité pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas être atteints du syndrome du vieux flippé. Tout un programme, mais je vous laisse découvrir par vous-même l'univers haut en couleur de Vincent Ravalec. Vincent Ravalec, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous allons parler de votre nouveau livre, Mémoire intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile, qui vient de paraître aux éditions Fayard. C'est en pleine actualité, avec le débat sur les retraites, donc on est en plein dedans. Mais un monde hostile, en quoi notre monde est-il je pense qu'il est hostile, oui, effectivement, mais est-ce que cela. Comment vous est venu ce titre, Vincent Ravalec?
Bah écoutez, à cause de la première partie du titre, je pense que effectivement on peut le ressentir comme hostile, quelle que soit sa condition, mais l'âge venant, je trouve, en tout cas pour quelqu'un qui évolue dans un milieu urbain et extrêmement sous pression, c'est-à-dire en l'occurrence moi je suis un artiste indépendant, ouais. Donc chaque matin en me levant, la question de ma survie se pose avec plus d'acuité encore que la veille. Du coup, mon ressenti du monde, hein, comme dans la météo. En termes de température ressentie, il est plutôt hostile, ouais. En tout cas, il est pressurisant.
Ouais. Est-ce que on passe sur la crise sanitaire? Est-ce que on a parlé du confinement? Il est question du confinement dans votre roman, Vincent Ravalec. Est-ce qu'il a été écrit d'ailleurs pendant le confinement?
Alors, il a été écrit partiellement pendant le confinement. Je l'ai commencé en fait avant le confinement et je l'ai fini après le confinement. Le confinement, en fait, a pas. Je peux pas dire que le confinement intervienne beaucoup dans le livre et qu'il soit vraiment beaucoup un des facteurs de l'hostilité dont vous parliez. C'est plutôt un espèce de tout, quoi. C'est, je veux dire, le monde a toujours été difficile, la condition humaine a toujours été extrêmement complexe et complexe parce que on est tout de même dans un espèce de statut paradoxal où on a les moyens de réfléchir sur notre condition sans ayant de visibilité réelle sur cette condition, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas plus avancé sur ce qu'on fait là, ce qui fait que notre système de questions-réponses qui nous fait créer du récit, en fait, au bout d'un moment, ce qui fait que le monde est tout de même peut-être pas moins, il est moins dur qu'avant, mais il est peut-être plus anxiogène aussi parce que beaucoup des récits se sont effondrés, notamment les récits religieux et même les récits politiques, enfin ou sociaux, comme le Grand Soir et tout. Aujourd'hui, tout de même, force nous est de constater que ils sont plus opérants, donc on se retrouve dans cette situation, en fait, avec en plus aujourd'hui avec une technologie qui est absolument démentielle et tout de même une absence de réponse. Donc je pense que tout ça participe tout de même à quelque chose d'assez curieux. Et donc pour en venir au confinement, le confinement s'est un peu intégré dans cette espèce de bleu qui est un monde tout de même agité de soubresauts, dans lequel on a énormément d'informations et sur lequel finalement on a assez peu de prise en tant qu'individu.
Je parlais du confinement parce que c'est une parenthèse.
Ouais, ça a été une parenthèse. Alors, moi, je dois le reconnaître que ça a été une parenthèse, plutôt une parenthèse enchantée, dans le sens où, vu que je travaille tout de même non-stop tout le temps, c'est vrai que ça a été flippant parce que d'un seul coup, tout s'est arrêté, que moi, dans mon activité, tout s'est arrêté. C'est-à-dire scénario, film, enfin, tout ce qui générait des revenus. Et il faut le dire, grâce les artistes ont été soutenus, ce qui fait que moi ça m'a fait un petit appel d'air. Je peux pas dire que j'ai vécu le confinement comme un traumatisme, non, pas du tout. Ça a été plutôt une espèce de chose assez curieuse, quoi. Moi qui ai toujours été un gros lecteur de science-fiction, d'un seul coup, la science-fiction, enfin pas la science-fiction, mais l'anticipation en tout cas, puisque on se retrouvait dans une situation digne d'un film, quoi, était vraiment assez curieuse. Avec moi j'ai eu des séquences. Parce que j'ai tout de même continué à travailler, donc au début, quand tout s'est arrêté, j'ai quand même traversé la France en voiture, et c'était incroyable. J'ai passé une journée, j'ai traversé entièrement la France, et il y avait personne. Il y avait les péages étaient automatisés, les stations-service étaient automatisées, donc j'étais sur autoroute tout seul, dans les champs, il y avait personne, pas de tracteur, rien, et ça faisait vraiment une impression de fin du monde. C'était une image, vraiment une image de film, quoi.
Bah, la fin du monde, elle est quand même l'arrière-fond, on pourrait dire la bande de son de votre roman, Vincent Ravalec, la fin du monde, il en est question.
Alors, est-ce que la fin du monde, il en est question dans mon livre? Ah, il est question de ma propre fin, et comme tout écrivain, je suis probablement assez égocentré. Évidemment, ma propre fin induit que c'est la fin des recours pour tout le monde. Mais c'est le sujet du livre est tout de même plus ce délitement qu'on ressent en vieillissant. Enfin, j'imagine que je suis pas le seul. Enfin, d'après ce que je vois autour de moi, qui ai toujours été, à vrai dire, je m'étais jamais posé la question du fait que mon corps, à un moment donné, pouvait ne plus ressembler, ou ne plus, en tout cas, avoir la fonctionnalité, et l'aisance, en fait, que j'en attendais auparavant, c'est quelque chose qui m'a profondément, saisi. Et c'est plutôt ça le sujet, plus que la fin du monde, La fin du monde, je pense que même si on en parle tout le temps.
D'un monde.
Alors oui, par contre, c'est la fin d'un monde, clairement, ouais. C'est la fin d'un monde. Je pense que ça arrivait à toutes les générations, et que chaque génération, quand on arrive à 60, 50, 60, 70 ans, on s'aperçoit que tout simplement son monde est en train de sombrer avec nous, quoi. Et là, moi, je fais partie de la génération des boomers, donc qui ont eu tout de même des symboles très forts, des symboles de liberté, des symboles d'émancipation, le rock. Il y a plein de choses, en fait, et dans lesquelles on se semblait un peu, justement, les rois novateurs, en fait, d'une nouvelle société, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Moi, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est, comment mes paradigmes culturels que je pensais inébranlables, que je pensais universels, voire intemporels. En fait, quand vous discutez avec des gens qu'on 30, 40, voire 50 ans de moins que vous, mais les trois quarts des choses qui sont pour vous des références évidentes, ils en ont même pas entendu parler, quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça fait ça chaque époque, succède à la précédente. Et ça, ça a été un choc, ouais.
Ouais. Alors, c'est sous forme de journal intime. Est-ce qu'on peut parler d'autofiction, Vincent Ravalec?
Bah, c'est une fausse autofiction, disons. J'épouse le genre de l'autofiction non pas que je m'en moque des codes, mais l'autofiction, ça a jamais été mon truc, justement. J'ai toujours, en fait, du mal avec la réalité. Je trouve que le charme de la littérature, c'est justement de magnifier, de transformer, d'embellir, de déformer la réalité. Or l'autofiction se veut quelque chose tout de même d'assez juste. Or là, c'est un mélange un peu de tout, quoi. Ouais, c'est de l'autofiction, mais de l'autofiction à ma manière. C'est un peu de l'autofiction gonzo, comme faisait Hunter Thompson avec le journalisme.
Ouais. Alors, vous dites, je vous ai entendu dire quelque part que vous avez un humour bobo parisien. Est-ce que c'est difficile, finalement? Ça paraît facile comme ça, le mode humoristique. Est-ce que finalement c'est pas si facile que ça?
Alors écoutez, ça se positionne pas vraiment de cette manière pour moi. Il y a des trucs qui me font rire, et vu que ça me fait rire, bah, j'écris de manière... Je me dis jamais, tiens, je vais essayer d'être drôle, comme par exemple, je sais pas, un acteur de stand-up essaye de faire des gags. Des fois, écoutez, j'aime bien, si vous voulez, je trouve que c'est facile de rire de soi-même. Quand on rit des autres, je trouve ça toujours un peu touchy. C'est pas, je suis pas à l'aise avec ça. Mais par contre, tant qu'il s'agit de moi, c'est quelque chose avec lequel qui me vient facilement.
Ouais. Donc c'est plutôt naturel. C'est plutôt dans votre nature.
Ah oui, c'est dans ma nature. Bah écoutez, quand je ne suis pas agité par les pensées sombres générées par la vieillesse, oui. Mais sinon, oui, oui.
Ouais. Alors voilà ce que, pour vous, vieillir, c'est surtout prendre conscience du point final. C'est aussi le vieillissement du corps. Ne serait-ce pas parce qu'elle paraissait inéluctable. Jeune, tu avais été. Vieux, tu deviendras. Là, c'est ce que vous écrivez. Vieux, c'était craignos. On n'avait plus la vie devant soi. C'était même l'inverse. Je détestais les vieux et j'allais en devenir un. C'était déconcertant. Certains. Après, vous dites, la finitude semblait, quoi qu'il en soit, une constante. Les étoiles comme les croutons, croutons revient souvent d'ailleurs sous votre plume, finissaient par tirer leur révérence, non comme cela, une jeunesse, si ce n'est éternelle du moins.
Oui.
Donc, en fait, bon, c'est la conscience de votre propre vieillissement, C'est ça. Et aussi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en vous lisant, Vincent Ravalek, c'est que c'est au vieillir, c'est aux antipodes de créer.
Vieillir, c'est aux antipodes de créer. Alors, je sais pas trop, parce que l'autre jour, il y avait un article très intéressant, je crois que c'était dans Beaux-Arts, qui parlait justement des... que la fin en fait avait généré chez plein de grands artistes quelque chose de très fécond.
Ouais.
Dans le documentaire d'Ennio Morricone aussi là que j'ai regardé il y a pas longtemps qui est formidable, on voit que à la fin de sa vie il a continué à être très créatif. Moi je suis pas sûr que non, je le ressens pas comme ça. C'est pas la perte de la créativité, c'est plutôt la perte de moi tel que je le ressens aujourd'hui et malheureusement je pense que ça ne va faire qu'empirer. C'est plutôt l'espèce de raidissement physique qui vous prend, la crainte de problèmes de santé, les gens autour de vous, voire aussi, tous les gens autour de vous, comme dans la célèbre séquence de Proust, là, où il a l'impression que tous les gens sont grimés, en fait, ils ont tous vieilli, voire autour de nous, les gens vieux, quoi, des gens qu'on a tous connus jeunes, et on les voit frappés de décrépitude, donc on sait que ils voient la même chose de vous, et tout ça fait une espèce de théâtre, mon Dieu, pas enthousiasmant, quoi.
Ouais. Mais c'est aussi il y a un regard social, un regard sur le vieillissement de la société, Vincent Ravalek.
Ouais, ça, le regard social, moi, je m'en fous. Je vous avouerai que je pense qu'il y a un fait, c'est quand on est vieux, point. Je veux dire, on va pas dire que c'est cool d'être vieux. Enfin, je veux dire, quel que soit le récit, le regard social, oui, certes, on peut aménager un peu le truc, mais en vrai, c'est quand même pas super, quoi.
Ouais. Alors, ce qui est aussi très, très, vraiment intéressant dans votre livre, c'est le regard sur le milieu éditorial, puisque votre narrateur, donc vous-même, enfin, va écrire un livre sur le vieillissement, et on voit toute la description du milieu éditorial. Vous écrivez un vrai futur vieillard éclairé apportant à d'autres futurs vieillards lumière et réconfort. C'était ça, la baseline. Et le ticket garanti pour le carton éditorial. Quelque chose de simple à pitcher que l'attaché de presse pouvait comprendre sans explication de texte. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très marrant parce que vous décrivez comme ça les rouages. Comment naît un livre ?
Bah, comment naît un livre, là, écoutez, me lancez pas sur le sujet parce que je risque d'être intéressable.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un état de fait. Je pense que l'industrie, l'édition a rejoint l'industrie audiovisuelle pour ça, c'est que c'est maintenant une industrie. Et que, moi, j'ai connu la fin de l'édition un peu à la française où on arrivait dans des petits bureaux mansardés. Où l'éditeur, vous repartiez les bras chargés de livres parce que tellement l'éditeur était content de vous donner des livres qu'il avait publiés, dont il était fier. Et certes, il était content d'en vendre, mais avant tout, il était content de publier des livres avec des textes qui exaltaient la pensée, le romanesque. Bon, aujourd'hui, c'est absolument pas ça. Aujourd'hui, les éditeurs appartiennent à des groupes. Ces groupes ont une obligation de rentabilité. Et la rentabilité, elle est liée au fait que vous vendiez des livres. Donc, si vous vendez des livres, bah, c'est bien. Si vous en vendez pas, bah, vous n'avez aucun intérêt. C'est aussi simple que ça, quoi. Et donc, forcément, de manière un peu cocasse, rigolote, j'inscris mon projet de livre là-dedans avec émaillé de réflexions qui de moi-même, qui de mon éditrice, pour essayer justement d'arriver à être à peu près dans les clous d'un livre qui pourrait avoir un débouché commercial.
Ouais. Voilà ce que vous écrivez. Et plusieurs proches m'encourageaient, un vieux qui survit dans un monde hostile. Mais c'est génial, c'est tellement le truc dans lequel nous baignons tous. Ça, Et puis après, vous poursuivez, ô pauvre auteur que vous étiez, si votre livre n'était pas en pile un peu partout, déjà, que quand il l'était, ce n'était pas gagné, autant dire que les chances pour que quelqu'un pense à l'acheter se réduisaient comme une peau de chagrin. Entre vos débuts, Vincent Ravalek, ça fait quand même 30 ans que vous publiez, et maintenant, vous avez vu évidemment tout le paysage éditorial se modifier.
Il s'est modifié, oui, il s'est modifié considérablement. À mon avis, pour différentes raisons. Déjà, il y a un truc qu'il faut pas minimiser, c'est le fait qu'il y ait maintenant les chiffres GFK. Là, vous savez, donc il y a un historique qui est vraiment implacable des ventes, qui va conditionner en fait la mise en place de votre livre suivant. Donc c'est ce que je dis de manière un peu humoristique dans le livre. Bah, si le libraire avant, il y avait un espèce de flou, vous voyez, si vous aviez un peu de presse, machin, le libraire aimait bien vos livres, bon, le représentant arrivait à lui en refourguer une petite pile. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Le gars, il regarde, si tant est qu'il ait lu le précédent, il voit, il en a vendu deux, il va en prendre un. C'est-à-dire que s'il prend un livre, votre livre va pas être vu. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième qui vient compléter ça, c'est qu'il y a une profusion depuis les années 2000 de propositions artistiques qui sont démentielles et d'une qualité vraiment... assez sidérante sur le nombre et puis après avec l'arrivée des plateformes tout ça, donc tout ça a complètement modifié le paysage, plus le fait que des groupes qui étaient des éditeurs qui étaient des éditeurs indépendants ont été vendus à des groupes, puisqu'aujourd'hui si vous n'êtes pas un groupe vous n'avez aucune chance de surnager dans ce monde qui est tout de même, si ce n'est hostile, en tout cas très complexe et qui est réservé aux gros. Donc tout ça a fait que et puis il y a aussi, je pense, un truc un peu général, c'est que on n'est plus dans un truc de la pensée. Je veux dire, le XXe siècle a tout de même été porté après le siècle des Lumières, tout ça, il y avait, je veux dire, la pensée intellectuelle, la réflexion était quand même mise en avant, et aujourd'hui c'est tout de même la rentabilité portée par la tech. Je veux dire, c'est la tech qui gère tout, la tech est implacable, tech c'est ce qu'on va faire. Avec les extrêmes, avec l'intelligence artificielle et qui est vraiment en tête de gondole là ces dernières semaines. Donc tout ça fait que je sais pas quel avenir va avoir la littérature en fait. Est-ce qu'on va juste rester dans un truc de récit qui va servir en fait à alimenter les films pour les plateformes ou les séries pour les plateformes, ou est-ce qu'il va y avoir encore des espèces de niches?
Est-ce que vous vous souvenez, Vincent Ravalet, de votre premier manuscrit que vous avez envoyé à un éditeur? Je pense que c'était quoi, Le Cantique de la Racaille ou Un pur moment de rock'n'roll?
Non, alors en fait, mes premiers manuscrits, ça je l'ai souvent raconté à mes débuts parce que c'est ça qui, les journalistes aimaient bien cette anecdote. En fait, je m'étais fait une fausse recommandation avec du papier en tête à l'époque c'était Antenne 2, et je l'avais déposé chez plusieurs éditeurs, et incroyable, j'ai déposé chez une éditrice à l'époque qui était une espèce de papesse de l'édition qui s'appelait Françoise Verny, et elle m'avait rappelé. Je lui avais dit un truc du genre, je me rappelle très bien, j'ai dit, ma petite cocotte, dépêche-toi parce que je crois que Grasset est sur le coup, et j'avais fait une signature illisible, et elle m'avait rappelé, elle avait lu les nouvelles, et elle avait été très, c'était une personne très, très spectaculaire, vraiment très théâtrale, elle fumait énormément, elle avait une grosse voix, elle était assez monstrueuse, et elle m'avait dit, comme ça, en tout ce temps, m'avait dit, avec vos nouvelles, vous pulsez du mythologique. Ce que j'avais trouvé assez fort comme phrase. Et elle avait pas voulu des nouvelles, et elle m'avait dit, mais écrivez un roman. Elle m'avait dit, les nouvelles, ça se vend pas. Et c'est comme ça que j'ai écrit Cantique de Racaille. Et les nouvelles, après, je les ai déposées aux Dilettantes. Le Dilettante, qui à l'époque était un petit éditeur, et je crois qu'ils tiraient leur livre à 390 exemplaires ou un truc comme ça. C'était une bande de copains en fait de la Butte aux Cailles, plus ou moins anarchistes, et je leur ai déposé, parce que je les avais vus au Salon du Livre, et ils avaient des couvertures assez colorées, moi qui me parlais, et je crois qu'ils ont perdu la lettre où il y avait les nouvelles dedans. Et 3-4 mois après, je reçois un coup de fil il me dit, est-ce que vous avez signé avec un éditeur pour les nouvelles, parce qu'on est désolé, on les avait perdues, on vient de les lire et on veut les publier.
Ah, génial.
Vraiment génial. Et ça a été un purement de rock'n'roll.
Ouais.
Avec une couverture avec des petits anges qu'avait fait la fille qui faisait toute leur couverture à l'époque, qui s'appelait Anne-Marie Ada. Et donc ça a été mon premier livre et qui a tout de suite eu un bon accueil. Et le coup de bol, il a été présenté par, je suis pas passé à Apostrophe, mais Bernard Pivot l'a présenté à Apostrophe, enfin il montrait des livres, et il y avait Patrick Bruel qui était là, et comme c'était le titre, Patrick Bruel a repris le livre qui était posé, il a dit, purement de rock'n'roll, ça a l'air bien, ça, je vais le prendre, un truc comme ça. Et moi, à l'époque, tous les jours, j'allais voir au Virgin, si des livres se vendaient, il y en avait 3 qui étaient posés sur une table, et le lendemain, il n'y en avait plus.
Ah, génial.
Les 3 étaient partis, donc après j'ai fait plein de livres.
Voilà. Ouais.
Mais la couverture là de Mémoire intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile, elle est très flashy, très punchy.
Ouais, c'est un peu une fausse couverture Sex Pistols, c'est exprès. En fait, ça fait Sex Pistols revu par le grand marché un peu quoi. Donc c'est une couverture un peu au second degré. Qui fait un peu punk tout en étant aujourd'hui totalement dans les clous comme un vieux comme je suis quoi.
Vous regrettez cette époque punk?
pas du tout. Moi, je regrette absolument rien. J'ai pas du tout de regrets, ni du passé, ni de ma jeunesse. Je trouve que le temps est fait justement pour, comment dire, pour le vivre, s'écouler. Je suis très content de l'époque. Je veux dire, chaque époque a sa spécificité. Je pense pas qu'avant c'était mieux ou que demain ce sera moins bien ou que demain ce sera mieux. Je pense que il y a toujours des trucs cool, des trucs pas cool. Bon, là c'est vrai que le truc terrible c'est la guerre en Ukraine. Ça c'est franchement c'est la bad news. Mais sinon, moi j'ai tout de même depuis que je suis né connu une période de paix assez incroyable. En tout cas dans le milieu dans lequel je vis en France. Évidemment avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais je trouve que l'époque est fascinante. Je veux dire, moi tout ce qui se passe, je trouve ça absolument extraordinaire. Je vois vraiment plein de choses incroyables. Quand même.
Ouais, mais en même temps, vous dénoncez un peu. C'est une époque un peu lisse. Vous écrivez ceux qui prouvaient bien que les dés étaient pipés et que les lecteurs obéissaient à une impulsion panurgienne. Vous n'êtes pas dupe d'une sorte de convention de l'époque.
Ouais, c'est vrai, mais à côté de ça, si vous cherchez, il y a tout de même beaucoup, énormément de choses qui se font. Il y a une profusion tout de même artistique, même littéraire. Je veux dire, tout ce qui est roman graphique, tout ça. Il y a encore des petits éditeurs qui publient pas mal de choses. Je pense que aussi c'est vrai globalement, ça c'est indéniable, et en même temps il y a tout de même une profusion, en tout cas en France, une profusion artistique incroyable. D'ailleurs, il faut tout de même préciser que dès qu'on voyage à l'étranger, je veux dire, on se rend compte que la France, on est incroyablement privilégié en termes de culture. Je veux dire, mais c'est démentiel. Vous allez dans d'autres pays, il n'y a pas 40 statues à tous les coins de rue, il n'y a pas des librairies partout, il n'y a pas des festivals de courts-métrages dans le moindre village, il n'y a pas des spectacles de clowns, en veux-tu, en voilà, dans les hôpitaux. Enfin, je veux dire, on est encore un pays culturel, et d'ailleurs à mon avis je trouve qu'on devrait d'une part être plus être plus content de ça et s'en servir encore plus, quoi. C'est-à-dire justement je trouve que c'est vrai qu'on manque un peu d'inventivité culturelle. Ouais.
C'est important pour vous d'être contemporain de vos contemporains?
Ah ouais, très, ouais, bien sûr, ouais, moi je me sens totalement imprégné dans le monde tel qu'il est, très attentif à tout. C'est vrai que je regarde pas la télé, par contre j'ai beaucoup la presse. Je suis hyper, comme j'ai fait de la réalité virtuelle, je suis hyper affûté sur tout ce qui est tech, tout ce qui est, bah là par exemple IA, dès que l'IA est arrivé, par exemple pas pour le texte, parce que je pense pas que ChatGPT écrit mieux que moi, enfin j'espère, en tout cas pas pour le moment, mais en tout cas qu'il écrit comme j'ai envie d'écrire, et puis l'écriture est trop importante pour moi pour que je la délègue à quelqu'un. Mais moi, j'ai toujours été un auteur de BD frustré. Ben là, depuis qu'il y a Midjourney, j'ai déjà plusieurs livres en cours avec des dessins, et c'est hyper créatif. Donc en plus, je suis grand-père, j'ai des petites filles, donc notre inscription dans une époque, dans un moment et tout, pour moi, oui, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Ouais.
Comment vous conciliez vos activités d'écrivain et de scénariste?
Bah comme je peux, hein, surtout comme je peux, c'est-à-dire que je fais pas que scénariste, je réalise aussi, je produis, je fais des livres graphiques, et puis je donne beaucoup de formations aussi. J'ai deux grosses formations. J'ai une formation pour des écrivains qui veulent devenir scénaristes et l'autre pour des scénaristes qui veulent publier, qui veulent écrire des romans. Et je travaille comme un taré, je suis tout le temps burn-out, voilà, et je fais ce que je peux, quoi.
C'est la différence entre... Est-ce que c'est difficile de passer du roman au scénario et du scénario au roman?
Bah écoutez, en fait, c'est assez facile, à mon avis, de passer du roman au scénario d'un point de vue technique. C'est-à-dire que justement, dans la formation que je donne, je l'explique, dans la mesure où on sait écrire un livre, si on comprend, c'est-à-dire si on écoute bien pendant les 8 jours de formation que je donne, normalement, on sait écrire un scénario après, en tout cas... On est à peu près à égalité avec un scénariste. Après, ce qui est très compliqué dans le scénario, c'est pas d'écrire le scénario, c'est de faire aboutir le scénario, parce que c'est très compliqué, parce qu'en gros, si vous voulez, quand vous écrivez un roman, vous avez un interlocuteur, deux maximum. Dans un scénario, entre le moment où vous allez commencer à l'écrire et le moment où il se tourne, vous avez peut-être 50 personnes qui vont donner leur avis. Vous avez déjà, c'est assez simple à comprendre. Vous allez au cinéma avec une personne, à deux. Vous ressortez, vous serez capable à peu près d'avoir un avis commun. À trois, c'est moins sûr. À quatre, c'est sûr que non. Donc imaginez sur un scénario qui est un objet en devenir, qui est même pas un objet, qui ne sera même pas un objet fini, mais dans lequel il va y avoir plein de versions. Imaginez le tissu de subjectivité qu'il va y avoir. C'est énorme. Je veux dire, donc déjà, c'est très, 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 très dur à gérer. Parce que écrire une première version d'un scénario, mais après, quand, des fois, vous en écrivez 50. Donc, vous allez devoir gérer tous ces influx, tous ces impacts qui vous viennent de l'extérieur. Et après, cerise sur le gâteau, quand vous faites un livre, c'est un risque financier de quoi? Entre 10 000, 15 000, 20 000 balles, 30 000 balles. Quand vous faites un film, c'est minimum un, voire plusieurs millions d'euros. Donc c'est, évidemment, il y a des enjeux financiers derrière avec des gens qui risquent de perdre cet argent. Donc là, c'est là où ça devient très très compliqué. Donc c'est facile d'écrire le scénario. C'est beau pour un romancier. C'est beaucoup moins facile d'aller jusqu'au bout du scénario. A contrario, pour un scénariste, c'est variable en fait. Ça dépend s'il a la fibre littéraire ou pas. Mais bizarrement, j'ai plus de résultats dans l'atelier que je fais pour les scénaristes qui veulent devenir romanciers. Là, je crois qu'on doit être à au moins une dizaine de livres publiés chez des gros éditeurs. Donc, il y a des gens qui sont arrivés à mener à terme leur roman, et il y en a même qui n'ont pas été publiés, mais dont le roman est vraiment bien. Alors que chez les romanciers, il y en a moins qui arrivent vraiment à devenir scénaristes, non pas par capacité technique ou artistique, mais vraiment par parce qu'ils sont déconcertés par ce process qui est très très fatigant, très dur à gérer, très 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 flippant. Et en plus, il faut arriver à avoir le réseau, c'est-à-dire à mettre un pied dans le dans un milieu qui est pas simple. Ouais. Donc les deux switches sont intéressants.
Bon, on va faire une petite pause musicale et puis nous reprenons notre conversation, Vincent Ravalek.
Parfait.
Ouais, on se débrouille avec Yvette. J'ai gardé toute ma tête, c'est ma fierté. Je mettrai pas les pieds en maison de maltraite. Le budget est serré, ça se passe de commentaires. On vit grâce aux enfants, les APL et la complémentaire. Ma femme épluche les bons de réduction de la boîte aux lettres. Elle gère la bourse et ne jette pas l'argent par les fenêtres, Yvette. Chaque dépense est calculée, maîtrisée, on gaspille pas. Toutes les chaussettes sont reprisées, mais c'est pas grave tout ça. Ouais, tout ça c'est matériel, tout ça c'est secondaire. Tant que t'as pas coulé la bielle, tu connais l'adage, tant qu'on respire, y'a de l'espoir. Je vais faire ma marche et retrouver les potes au square. Allez, pas maintenant s'il te plaît. Encore un petit peu, je t'en supplie, j'ai pas fini. Encore un petit vœu, encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Allez, pas maintenant s'il te plaît. Encore un petit peu, je t'en supplie, j'ai pas fini. Encore un petit vœu, encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Question, ça va, je réponds toujours, on fait aller. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? On fait aller. Je passe le temps, je fais surtout comme je peux, papa. Je profite et me réjouis de vivre encore à deux. C'est peut-être mon dernier coucher de soleil. C'est peut-être tout à l'heure, pendant mon sommeil, ou bien demain, qui sait? Hein? Qui peut le prédire? À mon âge, ça peut tomber n'importe quand, ça fait frémir. Alors on fait semblant, on fait comme si de rien n'était. On oublie, on se projette en été. Les petits enfants vont venir, ça va être chouette. On ira sur le bord de mer s'asseoir, regarder les mouettes. Allez, pas maintenant s'il te plaît, encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini, encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Allez, pas maintenant s'il te plaît, c'est encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini, encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Je ne crois pas en Dieu, moi je dis qu'après y a rien du tout. J'avais cette réflexion tout à l'heure et ça m'a rendu fou quoi. Comment ça, ça s'arrête net, c'est pas possible. D'un coup le vide et on en reste là, c'est pas plausible. Ça m'a fait gamberger, je sens que la fin est proche. Je veux pas mourir mais mon corps me lâche, putain c'est moche. Et là tu regardes droit dans les yeux la plus grande flippe de l'homme. Et tu t'acharnes à repousser l'ultimatum. Mais ouais c'est ça la vie. C'est ça la vie des dinosaures. Allez mamie, viens, une petite folie. Ce soir on dit nos porcs. Levons nos verres au nez, y'a la barbe du croque-mort. À l'amour, à nous deux, à la table du Bosphore. Allez, pas maintenant s'il te plaît, encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini, encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux. Allez, pas maintenant s'il te plaît, encore un petit peu. Je t'en supplie, j'ai pas fini,
signe, encore un petit vœu. Encore un peu de vin, un peu de sucre au petit vieux. J'ai pas pris mon dessert et j'ai encore un petit creux.
Vincent Ravalec, ben nous reprenons notre conversation autour de Mémoire intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile. C'est paru chez Fayard, c'est un roman. On parlait tout à l'heure du lien entre le scénario, le roman, et vous faites aussi des formations pour le roman graphique. Est-ce qu'il y a une nuance encore supplémentaire quand on veut s'initier au roman graphique?
En fait, on pense souvent que la bande dessinée ou le roman graphique, c'est comme le cinéma. C'est effectivement c'est cousin, certes, mais chaque média, en fait, dans l'analyse moi que j'en comprends, se distingue en fait par la réception de le déploiement et la réception de la temporalité, par exemple narrative, n'est pas la même. Quand dans l'audiovisuel, vous avez une temporalité qui est totalement imposée au cerveau de vos spectateurs. Bon, évidemment, on peut zapper, on peut s'arrêter, reprendre, mais en général, vous avez une ligne comme ça narrative qui se déroule. Alors que par exemple dans le roman littéraire, le lecteur a tout loisir en fait de relire un paragraphe, de s'évader un peu, ce qui fait que par exemple le roman littéraire permet beaucoup plus de digressions. Et le roman graphique est encore différent. Le roman graphique vous avez des cases, donc dans ces cases va être des dessins, et c'est le cerveau en fait du lecteur qui va faire le lien entre ces cases, et donc qui va créer un fil narratif, une temporalité narrative que vous ne maîtrisez pas non plus. Donc il y a des spécificités comme ça qui induisent du coup la manière de concevoir le récit. Donc moi c'est, en fait il se trouve que j'ai pas fait de formation moi, ni de scénario ni d'écrivain ni de quoi que ce soit. Donc j'ai toujours pratiqué ces choses de manière empirique, et de faire des formations m'a énormément fait progresser. Pas comme écrivain, mais comme narrateur, oui, et parce que ça m'a obligé à théoriser en fait des choses et du coup à m'améliorer, et puis à regarder aussi, à lire beaucoup de choses sur la narration, c'est un peu mon dada, et le roman graphique, il y a évidemment après une mise en scène du dessin. Que quand vous êtes dessinateur, vous ne maîtrisez pas. C'est pour ça que c'est bien là. Je suis en train de travailler avec un dessinateur qui est très talentueux, qui s'appelle Dominique Mermoux. Et c'est vraiment formidable, parce que c'est comme un acteur, en fait, qu'un acteur, quand vous êtes scénariste, en fait, ce qui fait la force d'un film ou d'une série, c'est les personnages. Hein. C'est vraiment ça la clé du truc. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'un personnage est réussi? Vous avez 50% le scénariste et 50% l'acteur. Et dans un roman graphique, vous avez 50% le scénario et 50% le dessinateur, puisque le dessinateur va vraiment emmener ce que vous lui proposez quelque part, quoi.
Ouais. Alors à chaque fois, vous aimez d'ailleurs vous confronter à la difficulté, Vincent Ravalec. Quel est le lien entre le rêve et la réalité? On a l'impression que ça interagit l'un sur l'autre. Enfin, vous êtes dans la réalité, mais en même temps, il y a du rêve et il y a une sorte d'interaction permanente entre l'imaginaire et la réalité.
Ben ouais, mais après, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Déjà, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas vraiment de réalité. Déjà, la réalité est tout de même quelque chose d'assez complexe. Tout ce que nous raconte la science sur le réel est tout de même ébouriffant d'invisibilité, de complexité, de choses que notre expérience sensible ne perçoit pas du tout. Et après, même d'un point de vue vraiment très pratique, ce qu'on voit de la réalité, c'est pas la réalité, c'est des photons de lumière qui sont envoyés dans notre rétine et que notre cerveau recrée en permanence. Donc ce qu'on voit, c'est même pas la vraie réalité, c'est la recréation d'une réalité. Donc une fois qu'on sait ça, ma foi, vu si vous voulez les capacités cérébrales qu'on a d'imagination, je vois pas pourquoi on mélangerait pas en permanence constamment un monde imaginaire à un monde réel, puisque de toute façon le monde qu'on pense réel est tout de même pas tout à fait vrai.
Voilà ce que vous écrivez. J'ai horreur de l'autofiction, je trouve ça nul et complaisant. Ce que j'écris, c'est de la fiction automatique, c'est comme un power. Tout ce que j'écris devient de la fiction. Donc il y a une sorte de voilà, vous travaillez sur plusieurs manuscrits ou quel est le déclic quand vous allez vous consacrer à un roman? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est la première phrase? Est-ce que c'est le sort de du corps écrit qui voilà, comment ça se passe?
Écoutez, je peux pas trop dire, déjà ça a évolué avec le temps pour des raisons économiques, c'est que avant j'arrivais quasiment à vivre principalement de mes romans. Or avec le temps, ça s'est inversé en fait. Là, c'est plus les scénarios qui ont une grosse part de mon modèle économique. Du coup, c'est à la fois une question de temps, une question de disponibilité, une question de calendrier aussi, parce que je sais que je fais à peu près un livre par an, donc entre faut que je le signe. Que après, en termes d'idées, moi je mon problème c'est plutôt que j'ai trop d'idées. Je pourrais écrire plein de romans en fait, j'ai plein d'idées de romans, donc pourquoi il y en a un qui à un moment donné se fait plutôt qu'un autre? Avant je vous aurais dit c'est parce que j'avais une nécessité impérieuse de l'écrire. Aujourd'hui c'est pas vrai, bien que j'étais très content d'écrire ce livre sur la vieillesse parce que ça m'a vraiment servi d'exorcisme. La vieillesse est vraiment quelque chose qui me turlupine, je pense que d'ailleurs je suis pas le seul. Et effectivement, le fait d'écrire a vraiment des fonctions pour moi très bénéfiques. D'une part, c'est évidemment une catharsis, mais c'est à partir où on met en forme quelque chose comme ça, bah ça a tout de même des vertus bénéfiques, psychiques, émotionnelles, même sur le devenir, par exemple, de cet état de vieux. Il est pour moi beaucoup plus supportable maintenant que j'ai fait ce petit livre. Donc, pour répondre à votre question, c'est variable. C'est variable, ça dépend de tas de paramètres, ça dépend aussi de l'appétence de mon éditeur ou de mon éditrice pour tel ou tel.
Vous lui en parlez avant d'un sujet éventuel de roman ou vous avez déjà écrit plusieurs?
Ah ben là, ouais, c'est un peu nécessaire, évidemment que je lui en parle parce qu'elle va me filer des thunes en fait. Donc si c'est fini le temps où je disais rien et on me donnait de l'argent, je suis même obligé de convaincre et de que le projet puisse avoir l'air de s'inscrire vaguement dans quelque chose de viable économiquement, quoi. D'ailleurs, j'ai énormément mis d'eau dans mon vin au fil des années, parce que j'étais parti pour plus avoir aucun lecteur. Moi, j'aime bien les trucs expérimentaux, les trucs un peu décalés. Donc, les trucs expérimentaux décalés aujourd'hui, inutile de vous dire que c'est, no way, quoi. Ça n'a plus de sens.
On peut dire que c'est un livre où vous faites le point. Vous avez eu 60 ans l'année dernière, je crois. Donc c'est vraiment le livre où vous faites le point avec vous-même, avec l'écriture, avec votre regard aussi sur le monde en pleine évolution.
C'est effectivement un livre de soixantenaire. Hein. Je l'aurais pas écrit à 20 ans. Bon, là c'est vrai que c'est tout de même cool. J'ai eu l'intégrale de mes nouvelles qui a été publiée il y a 2 ans, qui fait 1700 pages. C'est un peu le... C'est 30 ans de nouvelles, donc ça, franchement, j'échangerais pas ça contre un best-seller. Et ce livre-là, forcément, de fait, à 60 ans, ça marque un peu le coup, quoi. Ouais.
Alors, voilà ce que vous écrivez encore, Vincent Ravalec. C'était une connexion particulière avec l'existence. J'écrivais, je réécrivais le monde en permanence. Ma vie était un roman, un vrai. J'écrivais dans ma tête tout le temps des phrases, des ajustements de style, des cascades de mots, un poème souvent pour conclure qui s'évaporait ensuite quand je ne pensais pas ce qui était fréquent à le noter. Et quand je n'écrivais pas, je tournais un film mental, un film génial. Donc on voit, est-ce que la poésie, par exemple, ou la chanson, ça vous a tenté?
Ah bah oui, des chansons, j'en ai écrit pas mal. Ouais, j'ai même écrit pour Johnny, j'ai écrit pour Julien Clerc, pour Mac Lavoine. Mais la chanson, ouais, ça me tente beaucoup. Le problème, c'est qu'il faudrait que je sois plus pugnace et que j'aille plus souvent à la maison de disques, me montrer et pour placer des textes, parce que c'est pareil, s'ils font des... C'est des castings, donc faut être sur le coup, j'ai vraiment pas le temps. Et pour tout ce qui est de ce paragraphe que vous avez cité, de la poésie, ça j'en écris beaucoup, ouais. J'en écris régulièrement pour moi, je sais pas, pas tous les jours, mais peut-être assez, plusieurs fois par mois en tout cas, parfois plusieurs fois par semaine quand ça me prend. Et qu'est-ce que je voulais dire Et ouais, non, le truc que j'écris tout le temps dans ma tête, ouais, c'est quand on me prend pas la tête avec les scénarios, parce que les scénarios, c'est extrêmement prenant, ça prend de l'espace mental tout le temps, et c'est pas d'écrire le scénario qui est compliqué. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de réagir à toutes les injonctions, parfois complètement débiles, parfois trucs, il faut réécrire les trucs, et en plus, les trois quarts des scénaristes, je veux dire, on est tous au même point, c'est-à-dire que les trois quarts des trucs ne se tournent pas, en plus. Ouais. C'est ça qui est tuant, quoi, c'est-à-dire que vous faites des bibs, des dossiers, des machins, des pitchs, et puis au final, bah, c'est pas greenlighté, donc le truc se tourne pas, et tout. Là, je lisais Bret Easton Ellis, là, qui vient de sortir un roman, il a donné des interviews. Il disait qu'il a passé quasiment 20 ans, là, à écrire des scénarios pour Hollywood, aucun s'est tourné. Donc, c'est très ingrat. C'est pour ça que je préfère quand même l'écriture littéraire et les romans graphiques. Les romans graphiques, c'est cool parce que vous faites un scénario, mais très vite, vous avez un livre.
Voilà. Préférez un peu ce qui est avec peu de moyens, finalement, où la notion d'argent entre moins en ligne de compte.
J'adorerais faire parce que je réalise aussi, et donc c'est bizarre parce que maintenant franchement je pense que je suis un bon réalisateur, j'ai vraiment je pense que je fais des progrès, mais le problème c'est qu'en cinéma vous avez un plafond de verre, hein, je veux dire, c'est que si vous n'avez pas l'argent, ça se voit sur le film, voyez, tandis que en livre vous avez pas ce problème, et même si bon moi j'arrive à peu près toujours à faire des trucs avec pas grand chose, ben non, je veux dire, si vous avez pas l'argent, vous avez pas l'argent, et ça se voit à l'écran, quoi.
Alors il y a la notion aussi de temps long et de temps court. Vous avez écrit beaucoup de nouvelles et beaucoup de des romans aussi. Quelle est la différence entre le temps de la nouvelle et le temps du roman?
Bah, c'est qu'elle s'écrit plus vite, hein, je veux dire, tout simplement, c'est pas la même scansion. Je veux dire, vous avez la notion de la durée, elle est, c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin, je veux dire, c'est pas la même scansion narrative. Vous avez pas la même scansion narrative dans une nouvelle, dans un court-métrage, dans un roman ou dans un long-métrage, ou dans une série, par exemple. C'est pas les mêmes, par exemple, la trilogie romanesque Sainte-Croix-les-Vaches, elle est conçue comme une série, et dès le départ, je l'ai conçue comme un livre avec des rebonds. Ça joue sur pas mal de choses, sur évidemment, sur la scansion narrative elle-même, mais aussi sur l'entremêlement du film des personnages, le nombre de personnages, sur un unitaire, en fait, vous pouvez difficilement suivre plusieurs personnages, en fait. Vous avez tout de même des, bon, c'est pas toujours vrai, mais c'est vrai que sur une série, vous avez, en fait, des lignes de force qui peuvent être, multiples, qui peuvent s'entrecroiser, et par contre sur une nouvelle, par exemple, une nouvelle, vous avez tout de suite un pic et qui doit se descendre assez vite avec une chute.
Voilà. Hein.
Donc c'est tout simplement une question de condensation, en fait, de votre temporalité narrative.
Vous pensez à la fin. Dans la nouvelle, on pense tout de suite à la fin, j'imagine.
Je pense que beaucoup de mes nouvelles, je les ai écrites en ayant la phrase de début et la phrase de fin.
Voilà.
Au départ. Ce qui est pas toujours le cas d'un roman.
Le titre du roman, il vous vient à quel moment? Par exemple, ce titre-là, il vous est venu, et c'est important, c'est comme une phrase, hein, là, on est dans le temps long, c'est le cas de le dire.
Ben, souvent, j'ai le titre en même temps que le roman. Après, ça m'est parfois arrivé de pas avoir le titre, ce qui est assez compliqué parce que c'est dur de trouver un bon titre, et quand il vous vient comme ça instantanément, c'est bon signe, en fait. Vous avez le, moi j'aime bien les titres, À un moment, j'avais même un livre chez moi, enfin un livre, un truc. Ouais, je notais des titres, en fait, et je voulais faire un livre qui n'aurait été que des titres avec des couvertures illustrées. Faudrait d'ailleurs, je pourrais le faire maintenant, mais j'ai plein de titres comme ça d'avance, ouais.
Et d'ailleurs, je crois que dans votre livre, il y a une playlist, enfin pour la musique, il y a quand même la bande sonore de ce livre qui est voilà, et ça on sent que vous avez tenu à ce qu'il y ait cette playlist.
Tout à fait, d'autant plus que c'est mon gendre qui l'a fait, qui est DJ et qui reflète bien c'est ce que je dis aussi, c'est que moi je suis né à une époque où la musique ça n'a pas été le cas avant. Avant, je pense que les gens peut-être chantaient. Hein, ce qui était peut-être aussi un gros avantage, mais le fait de pouvoir être accompagné tout le temps par de la musique, et de la musique aussi sophistiquée, puisque moi j'ai vraiment vécu cette évolution, puisque j'ai vu le début du Walkman, enfin moi je suis né avec un électrophone, après il y a eu le Walkman, et après il y a eu, moi aujourd'hui on a les AirPods, quoi, et on non seulement les AirPods, mais qui sont connectés à la Sonothèque mondiale en temps réel pour 10 euros par mois. Hein, je veux dire, c'est tout de même ouf, quoi, je veux dire, c'est incroyable. Donc, je pense que c'est quelque chose de nouveau de pouvoir vivre vraiment avec une bande son, c'est-à-dire de voir la vie comme un film avec une bande son et la bande son qu'on veut, quoi. Donc je trouve que c'était vraiment important parce que ça a l'air d'être un détail, mais je trouve que ce n'est pas un détail. C'est quelque chose, là on parlait du monde moderne, bah ouais, moi je trouve le monde moderne génial, je trouve ça super d'avoir pouvoir regarder tout comme si on était dans un film en permanence avec Ennio Morricone qui vous fait sa musique dans les oreilles, quoi.
Ouais. Et est-ce que vous écrivez en silence, en musique, ou est-ce qu'il y a le rythme de l'écriture a son importance, Vincent Ravalek?
Non, j'écris en musique, moi, tout le temps. Ouais, en musique, et il y a même des musiques. Moi, je suis du genre à être capable d'écouter 1200 fois le même morceau en boucle toute une matinée, et puis après de m'en lasser, de plus jamais l'écouter. Mais je pense qu'il y a des morceaux, je saurais pas lesquels, mais qui ont vraiment rythmé certaines pages.
Ouais. Et pour ce livre-là en particulier?
J'écoute tout le temps de la musique, j'écoute de tout, moi, sauf du rap. Il n'y a que le rap auquel j'ai jamais accroché, ouais. Mais sinon j'écoute aussi bien du rock, de la musique classique, des chants religieux, des trucs de méditation. J'ai des playlists et des bandes son très 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 variées.
Vous écrivez sur des petits carnets ou directement sur l'ordinateur?
Non, j'écris sur ordinateur. Ouais, moi j'aime pas mon écriture. Donc avant j'écrivais à la machine à écrire avant les ordinateurs, et depuis non, j'écris constamment sur ordinateur. Et je pense, ça m'arrive de prendre des notes. Ouais, beaucoup. Ouais. Avant j'avais des petits carnets Mingway, là ça m'arrive encore, mais maintenant je prends plutôt des notes sur mon iPhone.
Machine à écrire, c'était le rythme.
Ouais, en fait, moi c'était assez laborieux parce que j'écrivais à la machine à écrire, je corrigeais avec du Tippex, je recollais sur mes trucs. J'ai encore mes premiers manuscrits comme ça, le manuscrit de Cantique de Raca, il est comme ça, avec plein de phrases que je découpais, que je collais, je sais pas comment on faisait. C'est comme le montage de film, moi j'ai monté en 35 au début. On n'arrive même plus à imaginer comment c'était, quoi.
Alors, pour revenir à la thématique du vieillissement, de ce vieux dans un monde hostile, vous parlez des sites de rencontres, et ça, c'est assez amusant. Vous dites, les sites de rencontres ne m'avaient jamais attiré, je suppose que je n'en avais éprouvé ni le besoin ni la nécessité, mais je changeais mon fusil d'épaule, peut-être alléché par les récits que l'on m'en faisait depuis des années. Aussi bien fille que garçon, a priori, tout le monde y allait, comme un énorme supermarché de l'amour, une copine m'avait dit, pour tous les gens de notre âge, c'est le paradis. Alors, les sites de rencontres, vous les avez d'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez enquêté un peu sur le terrain.
J'ai enquêté sur le terrain, écoutez, ouais, c'est vrai qu'il y a des anecdotes assez cocasses dont je me suis servi pour le livre. Sont-elles vraies, sont-elles fausses? Je laisse au lecteur à sa propre appréciation et sa propre perspicacité. Ça c'est pareil. Moi, il se trouve qu'effectivement, là, j'en ai pas vraiment le besoin, mais. Je trouve que c'est plutôt cool, quoi, surtout dans des mondes comme ça, urbains, où les gens se côtoient sans même se dire bonjour dans un cage d'escalier. Là, d'un seul coup, vous êtes esselé, vous avez envie d'une rencontre, d'une aventure, voire d'une histoire amoureuse. Hop, en trois clics, vous avez tout de même un choix inouï, quoi. C'est comme Spotify avec la musique, je veux dire, c'est tout de même cool.
Ouais, mais en même temps, vous dites, il existait donc une ligne précise, si je comprenais bien, d'une sélection naturelle me reléguant instantanément dans le maquis flou des denrées peu comestibles. Voilà, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de décalage, et en même temps, est-ce que chez vous, l'expérience des sites de rencontre, c'est aussi parce que vous, en tant que romancier, le personnage est important?
C'est-à-dire le personnage?
C'est-à-dire que on sent que dans l'évolution de votre roman, on sent que cette notion de personnage, même les sites de rencontre, finalement, vous croisez des tas de possibilités de personnages.
Ah oui, bien sûr, ouais, c'est un peu, ça va de pair avec le fait de transformer la réalité en un roman perpétuel. C'est vrai que vous avez tendance à vous voir comme un personnage, à voir les autres comme des personnages possibles. Ouais. Et c'est vrai que les sites de rencontre sont un théâtre qui s'y prête, forcément, puisque déjà, rien que pour s'y mettre, les utilisateurs ont besoin de se théâtraliser, minimum. Donc, je suis pas très féru, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a tout de même un théâtre, voire des impostures, voire une magnificence de la réalité. Et pour ce qui est des dorés pas comestibles, en fait, c'est tout simple, c'est que vous avez, sur un site de rencontre, vous êtes obligé de mettre des paramètres qui sont votre âge, des photos, des trucs comme ça. Donc là où vous pouvez éventuellement, jouer sur d'autres, mais mettre en avant d'autres aspects de vous-même qui seraient peut-être plus charmants ou plus vendeurs dans la réalité. Dans les sites de rencontres, vous pouvez être confronté à des choses un peu brutes, bah, à votre âge. Parce que je rencontre beaucoup de femmes de mon âge, et ouais, mais c'est horrible pour une femme de vieillir, machin, on vous désire plus, vous n'êtes plus désirable. Mais c'est pareil pour un homme. Enfin, je veux dire, vous êtes un crouton, peut-être qu'une femme, ça vient peut-être un tout petit peu plus tôt. Mais je veux dire, arrêtez, je veux dire, alors, c'est vrai qu'on a toujours l'image du vieux beau avec une jeunette de 20 ans, mais d'une part, c'est pas si fréquent, et je suis pas sûr que ce soit tellement si enviable, en fait. Ça ne change pas le fait que vous soyez en train de vieillir. Enfin, moi, en tout cas, en termes de potentiel de séduction, je pense qu'à 60 ans, quand même, mon temps est un peu révolu, quoi, j'ai dire, et c'est...
Enfin, il est plus difficile d'être une croutonne qu'un crouton.
C'est ce que disent toutes les femmes. Écoutez, moi je trouve pas ça super facile d'être un crouton. Je veux dire, c'est la preuve, c'est l'anecdote que je cite qui est assez drôle. C'est que quand vous allez sur Adopt, c'est que c'est marqué, vous savez, vous avez des tranches d'âge. Alors, je sais pas, moins de 25 ans, entre 30. Et après, vous avez 45 et plus. Ce qui m'a franchement laissé assez pantois. Donc, et plus quoi? Bah, et plus rien, mon vieux, va jouer 45, au-dessus de 45, t'es... Ouais. Alors... Après, quand vous arrivez à l'âge canonique que j'ai, c'est-à-dire maintenant 61, je pense que vous n'intéressez plus personne. Enfin, de toute façon, là, j'ai plus le... Comment dire, ça ne... Je suis pas confronté à ça, puisque je suis pas sur des sites de rencontres. Donc, mais pour revenir à la séduction homme-femme, ouais, c'est vrai que les femmes disent toujours ça. Mais moi, maintenant, étant dans cette condition... Je suis pas sûr que le sort des hommes soit tellement plus enviable. Enfin, le corps de l'homme se délite autant. Je veux dire, on devient moche. Enfin, je veux dire, c'est l'apanage de la vieillesse, quoi.
Enfin, c'est un petit peu différent, quand même, me semble-t-il. Il y a quelque chose de très rigolo que vous racontez. Il y en a même qui sont obligés de se refaire des profils parce qu'au bout d'un moment, c'est comme le poisson, ça supporte mal la péremption. L'histoire du profil, c'est quand même amusant, ça aussi. De se créer finalement un personnage, comme au bal masqué.
Ouais, et là, le truc qui a été assez drôle pour moi, c'est qu'en fait, j'avais mis la vérité, c'est-à-dire que je suis écrivain-réalisateur. Mais ce que j'avais pas percuté, c'est qu'évidemment, personne ne m'a cru. C'est que des écrivains et des réalisateurs, j'ai eu des retours où les gens se foutent de ma gueule, en disant « Ouais, ouais, bien sûr, t'es le dixième de la matinée, tout le monde est écrivain-réalisateur. » Et donc, j'ai trouvé ça assez cocasse, quoi.
Voilà, en plus vous écrivez, je rentrais chez moi déçu, cette fascination numérique, cette valse amoureuse qui se rythmait d'un clic n'était pas si évidente, en tout cas pour les pauvres vieux comme moi, les ostratisés, les plus de 45. Donc on revient toujours autour de plus de 45, c'est comme le 45 tour, remarquez. Ouais. Mais c'est vrai, au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable, disait, je crois, Romain Gary.
Ouais, c'était le titre d'un livre de Romain Gary, ouais. Mais bon, après, je pense que là, depuis que j'ai fait ce livre, qui a donc servi un peu comme un exorcisme, je me sens de nouveau jeune et plein d'allant. Mais pour combien de temps?
On va faire une pause musicale, Vincent Ravalek. Nous retournerons après à notre conversation.
Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, vieux. Des vrais vieux qui trient les lentilles, des vieux de la tête béquille. Tiens, voilà le bout de l'art, on souffle comme qu'il aurait cru. Du temps qu'on vivait à campagne, du temps qu'on leur en voulait pas, aux étoiles de disparaître. Prendront le cœur une fois vidé du meilleur. Ils ont pris le trou et la force qui ne remporte que l'écorce. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon. Qu'après le festin nous laisse les arêtes de la vieillesse, le temps de finir la cigarette. Ici à la soixantaine, ce qu'elle fait là sans la verveine. Je t'aime, enfile ses chansons, l'amour jette ses paillassons. Et la tête tourne soudain à relire le papier peint. Mais le foie des chasseurs du lac à en serre qui cherchait l'issue entre la porte. cheveux blancs sur la langue. Nous, on doit être centenaires, à rêver du bout de la terre, avoir des envies de Pérou et entendre au-dessus du temps ce bruit de tes congènes. L'intérêt, le soir descend, partout d'ici, faudrait pas qu'il nous trouve assis. Si on larguait nos bibelots, tout tiendrait dans un sac à dos. Regarde autant de variables, ils appellent ça l'autostop. Tant pis si on n'a pas de Chine, si cette conne s'imagine qu'avec elle le cœur s'arrête.
Vincent Ravalec, nous parlons toujours de votre livre « Mémoire intime d'un pauvre vieux, essayons de survivre dans un monde hostile ». C'est un roman, ça vient de paraître aux éditions Fayard. Alors, on a fait le tour un petit peu de votre façon d'écrire, mais on va revenir à la thématique du livre qui est le vieillissement. Au début de notre conversation, je vous disais qu'il me semblait que, à vous lire, que le constat du vieillissement pour vous... Il me semble que vous êtes un homme de tous les commencements, que vous aimez le commencement, que vous avez un côté printanier presque. Et je me disais, bon, c'est pour ça que je vous disais que ça allait peut-être à contrario de la création, même si dans les faits, on peut vieillir, vivre très longtemps et être un créateur très, très prolixe. Et puis, il y a une chose, à un moment donné, vous écrivez, un petit vieux, voilà, sur cette notion de petit vieux. Un petit vieux, je n'y avais jamais pensé de cette manière, mais putain, c'était évident. On ne disait jamais un grand vieux. Le vieux était forcément petit, car il se rabougrissait, il se tassait. C'est ce qu'il était en train de m'arriver. L'étape suivante, c'était quoi? 1m76, 1m75. Jusqu'où pouvait-on descendre? 1m60, pire, 1m55. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo, parce que c'est vrai, c'est une formule de la vie courante, on dit un petit vieux.
Ben ouais, c'est venu de manière assez terrifiante. C'est qu'en fait, j'étais chez le médecin pour une visite médicale et donc elle a pris ma taille et donc j'avais perdu 1 cm. J'ai toujours fait 1m78 et là je ne faisais plus 1m77. Donc ça a été le début de la panique puisque je me suis dit exactement ça quoi. Jusqu'à temps j'allais me rabougrir, peut-être même 1m40 et donc j'ai trouvé ça terrible.
Ouais. Ouais. Puis ça va aussi avec le côté, les petits vieux, on les met de côté un petit peu. Enfin, ils passent dans une petite... ils sont dans la ville et en même temps, voilà, il y a un côté disparition, en tous les cas, progressive, d'être sur les... On est moins sur les devants de la scène.
Ouais, c'est... Le seul truc pour lequel c'est pas vrai, c'est les chefs d'État. Il y a tout de même... C'est incroyable parce que le nombre de chefs d'État qui sont âgés, qui nous ont gouvernés, Mitterrand, par exemple, qui nous a gouvernés pendant c'était des septennats encore à son époque, non? Je me rappelle plus. En étant âgé et malade, là Joe Biden, enfin Poutine, ils sont tous âgés, quoi. Je veux dire, c'est
pas mal de croutons.
Ouais. Donc ce théorème n'est pas valable pour les dirigeants étatiques, ouais.
Ma notoriété, dites-vous, bon dans mal an, se stabilisait. J'étais un crouton, mais toujours vaguement dans le paysage, mais pas disparu, au contraire. Les œuvres complètes, cela voudrait dire, du patrimoine, c'était toujours ça. Donc, comment voyez-vous, d'ailleurs, avec le recul, les romans que vous avez écrits au début, vos nouvelles, est-ce que vous avez le sentiment que votre écriture a évolué, ou pas du tout, ou ça c'est, finalement, ça forme une œuvre très, très complémentaire?
Non, écoutez, je suis très très fier de mes nouvelles. Je pense que le recueil de nouvelles là, qui fait 1700 pages, il est vraiment bien. Les nouvelles sont très bonnes. franchement. Dans les romans, il y a des romans que j'ai réussi, il y a des romans qui sont vraiment ratés. Et donc ça, c'est un peu ennuyeux. En même temps, quand on fait beaucoup de choses, on peut pas tout réussir. Mmh. Moi, j'aime bien les trucs expérimentaux. Je pense que mes derniers romans sont vraiment bons. Et il y a toute une partie au milieu où ils sont vraiment pas bien. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne les raterai pas à cause de l'expérience que j'ai acquise comme scénariste. Mmh. Donc, non, Quantique de la racaille est vraiment réussi. Après, Wendy et Nostalgie de la magie noire sont pas bien. L'effacement progressif des consignes de sécurité, c'est vraiment un livre bizarre, mais vraiment, il est très bien. Après, Wendy 2 est pas bien, Héros, personnage et magicien est pas réussi, et Hépatite C, c'est très réussi, c'est très drôle. Le livre sur le cinéma, il est très marrant aussi. Et après, tous ceux que j'ai fait après sont vraiment bien. C'est là où j'ai commencé en fait à être un bon scénariste. Bonbon désespéré, c'est bien. La trilogie Sainte-Croix-les-Vaches, elle est super bien. Et ce livre-là, là, il est top aussi. Ouais. Ouais.
Est-ce que vous relisez à voix haute ?
Non, je me relis pas à voix haute. Et en fait, je me relis pas. J'ai relu les nouvelles. En fait, ça faisait 30 ans que je les avais pas lues. Il y a même des nouvelles, je me rappelais même plus. Je me rappelais même plus comment elles finissaient. Ce qui m'a permis de mieux les apprécier comme lecteur. Et non, pour ce qui est de le fait d'écrire, par exemple, mes premières nouvelles, j'ai retouché certains trucs parce qu'il y a un peu des facilités d'argot, de trucs qui étaient pas terribles. Et après, j'ai quasiment pas retouché. Et les romans, c'est vraiment c'est pas l'écriture elle-même, le style, ça va. C'est vraiment la structure narrative. Il y a des trucs que j'avais pas compris. En fait, j'écrivais trop au fil de la plume. Mmh. C'est pour ça que les romans que j'ai fait un peu vers à la fin du premier tiers de mon activité littéraire sont ratés. Mmh.
Vous relisez souvent quand vous le point final du manuscrit, quand vous avez terminé votre roman, il y a beaucoup de relectures où vous avancez progressivement, vous ayant déjà relu.
Non, je me relis toujours beaucoup quand j'écris, au moment d'écrire, et après, ça peut m'arriver de me relire. Par exemple, la première version de ce livre-là n'était pas réussie. Et donc, sur les injonctions d'ailleurs de mon éditrice, qui arrive assez rarement, en général je finis les trucs et bon, soit ils plaisent, soit ils plaisent pas, mais là en fait j'ai repris pas mal de choses, mais aussi parce que j'ai écrit, à un moment donné j'ai écrit une partie du livre juste au début du confinement, donc c'est vrai que c'était un peu, on savait pas trop où on allait, tout était un peu confus, il y avait un espèce de bouleversement. Moi j'étais aussi, avant qu'on ait les aides, là j'étais aux abois niveau thunes. Donc, et du coup je l'ai réécrit, mais la relecture est très importante. Apprendre, savoir se relire, en fait, ça fait partie de l'écriture. C'est ce que je dis à mes stagiaires, c'est vraiment très très important. Mmh. Parce que si vous êtes un peu fatigué, vous allez plutôt tendance à déprécier ce que vous avez écrit. Au contraire, faut pas vous exalter en pensant que c'est, il y a une espèce de justesse, en fait, dans la relecture, qui va énormément conditionner, parce que c'est un texte, il suffit de quelques mots en plus ou en moins pour qu'il soit complètement bancal. Donc, cette relecture, elle est primordiale.
Primordiale, c'est là qu'on trouve, qu'on voit aussi le rythme. Parce qu'il y a vraiment une rythmique hein, dans votre écriture, Vincent Ralvalec. Alors, pour revenir au sujet de la vieillesse, décidément, je la contourne, je l'évite, on en parle plus ou moins. C'était un chouette état, en fait, d'être vieux tout en ne l'étant pas vraiment. Il y avait plein d'avantages, à commencer par ce détachement qui était en train de s'installer, qui montait comme une vague tranquille à certains moments de la journée. Après, vous ajoutez, je me suis demandé si entrer dans la vieillesse n'était pas quelque chose d'enfantin finalement, comme de glisser sur un toboggan où vous n'auriez nulle prise. Le laisser aller aussi, c'est ça, on sent que agir, l'action, c'est une réflexion aussi sur l'action et puis la contraction, c'est la contraction, mais c'est-à-dire on se laisse aller à la vieillesse et ça vous n'aimez pas.
Bah, ça va pas trop avec ma personnalité, non, c'est sûr. Après, à un moment donné, on n'a pas le choix, quoi. C'est vrai que on aimerait bien avoir cette image du vieux détaché, serein, ayant compris des choses profondes de l'existence et en même temps ayant dépassé les vicissitudes. Je le ressens pas vraiment comme ça, quoi. Et puis il y a d'autres moments, de toute façon, vous avez pas le choix. Je veux dire, déjà, vous êtes, enfin. Moi, je trouve qu'on est tout de même beaucoup plus, on relative plus les choses, parce que on sait bien avec le temps que des choses, il y avait une phrase que j'avais adorée dans les Mémoires d'Elia Kazan, sur que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, parce que il parlait d'une histoire d'amour incroyable qu'il avait eue, et il a cette phrase que je trouve géniale que j'avais mis dans une nouvelle, c'est « Était-elle aussi belle que cela ? C'était il y a fort longtemps et je ne m'en souviens plus très bien. » Je trouve que tout est dit dans cette phrase. Je veux dire, comment on peut être bouleversé par une passion amoureuse? Et finalement, avec le temps, on se dit, mais comment j'ai pu me rouler par terre pour ces trucs, ces émois, ces trucs-là? Et je trouve que c'est tellement, emblématique de notre condition humaine que, et ça, c'est quand on est, effectivement, c'est le temps qui fait ça. Mmh. Vous pouvez pas avoir ce genre de réflexion quand vous avez 25 ans, c'est pas possible. Ouais.
Donc ça a du bon, le vieillissement, ça permet un décalage. À un moment donné, vous imaginez, je crois, un monde sans vieux. Dites, il y aurait des dérives, des battues organisées, comme des battues que font les chasseurs pour traquer les animaux nuisibles afin de débusquer les vieux qui se cacheront.
Bah, écoutez, si vous me poussez dans le retranchement, et si demain on me disait qu'on peut vivre dans un monde formidable où tout le monde est beau, jeune, intelligent, marrant, et avec la pêche et bien portant, je préfère ça qu'un monde de croutons et vit dans un EHPAD, franchement, quoi. C'est,
Homo EHPAD, ça vous aimez pas du tout?
Alors, ça, c'est vraiment une option, ce qui est même pas envisageable à un quart de seconde. Ouais, non, c'est pas possible, non, non. Mais d'ailleurs, moi, je suis inscrit dans la dignité, je comprends pas. Là, heureusement, il commence à y avoir un débat sociétal, mais enfin, ça va pas à la tête ou quoi. Je veux dire, de quel droit on va imposer à un individu de vivre comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est de la folie, enfin. Moi, je trouve que ça devrait être admis socialement qu'à un moment donné, bah voilà. C'est pas le cas aujourd'hui. Je veux dire, moi j'en parle à mes petits-enfants, par exemple à mes enfants, j'ai envie de pouvoir partir tranquillement sans que ce soit un drame, sans que ce soit un drame pour moi non plus, bah, sans que je me dise ah c'est vraiment terrible, mais quoi, je veux dire, autant partir 5 ans plus tôt et je veux dire avec le sourire que comme un espèce de débris comme ça, mais c'est ignoble, quoi.
Alors à un moment donné, votre narrateur rencontre une sorte de mécène qui va lui commander un livre. Il avait donc décidé de franchir le pas et de se confronter à ce challenge qui le titillait depuis longtemps, faire œuvre de création. Tu comprends, je n'ai pas envie de me réveiller un jour et de me dire que ma vie est derrière moi et que j'ai laissé passer le train. Alors c'est un personnage assez savoureux, je trouve, que ce commanditaire inattendu.
Ouais, d'autant plus que je ne dirais pas son nom, mais il est inspiré d'un personnage réel. Et oui, c'est vrai qu'à un moment donné, pendant le narrateur rencontre comme ça un espèce de type très riche qui n'a jamais créé, mais qui est riche. Et donc il y a un espèce d'échange de bons procédés, bon, qui finalement n'aboutira pas. Je veux pas spoiler ce qu'il y a dans le livre, mais je crois que la phrase c'est que je vais l'irriguer en flux créatif et lui en flux financier. Puis bon, finalement le truc capote, mais c'est vrai qu'il y a une scène assez marrante. Ouais.
Ouais, c'est un vrai personnage, sympathique en plus. Alors la période du Covid aussi, Vincent Ravalek. La fenêtre anxiogène pour laquelle je regardais l'univers depuis longtemps. Un moment, ma fenêtre de pauvre vieux était à ce moment-là devenue un clic, le lot commun. D'un certain point de vue, c'était rassurant. Je me ressentais moins seul face à l'adversité. Tout le monde était potentiellement un pauvre vieux essayant de survivre.
Bah, c'est vrai que les premières semaines, voire les premiers mois du Covid, ça a été quand même la panique générale, quoi. Personne, enfin, même des gens, là, pour le coup, qui n'étaient pas vieux, enfin, en tout cas, dans le milieu artistique, tout le monde se demandait ce qu'il allait faire. Enfin, je veux dire, tout le monde a été frappé un peu de stupeur. Et du coup, moi, si vous voulez, je suis dans une position. J'ai jamais été salarié et j'ai toujours. Quand vous faites œuvre de création, vous êtes toujours tous les matins. Il faut sortir un lapin de votre chapeau, quoi. À moins de faire un énorme succès. Je sais pas comment Houellebecq. Bon, je veux dire, le mec, il sait qu'il fait un livre, il sait qu'il va empocher des millions. Mais moi, c'est pas mon cas. En plus, je fais des trucs expérimentaux, toujours un peu différents. Donc chaque jour, il faut que je trouve une nouvelle astuce, en fait, pour arriver à m'en sortir, justement, dans ce monde qui, de fait, devient hostile. Mais là, avec la pandémie, enfin, ce qui est arrivé au début du Covid, tout le monde, effectivement, était au même point. Donc, moi, j'avais au moins un avantage, c'est que j'étais habitué à cette situation.
Ouais. En plus, ce confinement, ça a été fait pour préserver les vieux, justement.
Ça a été fait pour préserver les vieux, ouais. Et heureusement, les vieux artistes comme moi, ça, je dois dire que vraiment, je me suis félicité d'être en France et qu'il y ait des mesures, pour les artistes, parce que moi, c'est ça qui m'a sauvé, sinon, je serais pas là.
Alors, à ce propos, d'ailleurs, on revient sur le milieu éditorial, Vincent Ravalek. Vous parlez au moment de la relecture, il y a une première lecture du texte, et vous parlez d'une sensitivity reader. Donc, où il faut pas heurter le lecteur, faut être lisse, faut pas qu'il y ait de problème de, je sais pas, de diffamation, faut pas qu'il y ait trop de, et c'est très drôle. Vous écrivez quand on vous pitch un projet sur lequel vous êtes potentiellement lisse pour scénariser. Je donne ce conseil pour tous ceux d'entre vous qui seraient dans ce cas, hocher la tête en prenant un air convaincu, en balançant des petits ok et des c'est cool. Il y a tout un code finalement, c'est tout un langage entre deux. Dans les coulisses de la création éditoriale.
Oui, là en l'occurrence, je parlais de ça pour les scénarios, pour les livres, mais même pour les livres d'ailleurs, c'est vrai, oui. Après, pour ce qui est des Anti Rider, j'invente rien. Enfin, on voit qu'il y a des livres là qui vont être écrits, les livres de Roald Dahl, écoutez, bon, c'est l'époque qui veut ça. Moi, vous savez, je trouve toujours l'époque cool, donc l'époque est comme ça. Ça a certainement des avantages, certainement des inconvénients. Je veux dire, il y a des choses, c'était. J'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est ce que je dis d'ailleurs dans la préface de mes nouvelles. Dieu merci, d'ailleurs, personne ne s'en est aperçu, mais mes nouvelles sont pas du tout dans l'air du temps en termes du politiquement correct. J'ai beaucoup de mal, en fait, à avoir un avis sur les choses, en fait. J'ai pas de, hormis sur la vieillesse, hein.
Mais, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut mettre non-genré, la question de genre. Il apparaît dans, quand il y a la discussion avec l'éditrice, la conseillère, etc. Donc, tout repasse par le tamis de la société, par un peu ce lissage social se ressent aussi dans le travail éditorial.
Je pense que c'est un fait. Aujourd'hui, on peut pas trop se permettre d'aller dans un sens ou dans un autre, ou de trop bousculer les codes. En tout cas, si on veut s'inscrire dans une logique un peu mainstream, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de romans sur la vieillesse, Vincent Ravalek? Quand vous avez commencé, par exemple, et puis vieillir, la vieillesse, dites-vous, c'était tout ce que l'on voulait, sauf une bonne idée de roman. J'ai traversé en évitant le bus qui essayait de me foncer dessus, j'avais hâte d'arriver chez moi, j'avais l'idée d'un nouveau livre, la première phrase déjà en tête, qui pulsait bien. J'ai accéléré le pas, il me tardait de m'y mettre. Mais finalement, est-ce que c'est un bon... Voilà, ça taraude la tête de votre personnage, de votre narrateur, c'est-à-dire, est-ce un bon sujet? Non. Est-ce qu'il y a finalement des bons sujets de roman ou des mauvais sujets de roman?
Non, en vrai, non, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet de roman. S'il y a que des bons ou des mauvais romans, en fait. Ouais. C'est, peu importe le sujet, vous pouvez faire un, après, c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aurais choisi comme ça de but en blanc, quoi. Pour les raisons que j'aime pas les vieux, et que j'aime pas la vieillesse, et que j'aime pas vieillir. Mais, du coup, le challenge n'en était que plus intéressant à relever.
Quelles sont vos admirations, Vincent Ravalek, pour l'écriture? Quels sont les écrivains que vous avez beaucoup, beaucoup admirés?
J'ai beaucoup admiré Hubert Selby, qui m'a énormément influencé. Et vraiment, à chaque fois que j'ouvre son livre et tout ça, je suis pas déçu. Mon œil est tout de suite aspiré par l'espèce de rythme qu'il a. Selby, je pensais vraiment, a été l'écrivain qui a été le plus proche de ce que j'étais, à la fois par ce qu'il racontait, par la vie qu'il a eue, et par les extrêmes dans lesquels il a poussé son écriture, et par le rythme qu'il avait. Même si j'aurais pas pu écrire, par exemple, La Geôle, quoi, que j'ai... Et d'ailleurs, lui-même, quand dans ses interviews, il dit qu'il ne sait pas où il a été chercher ça en lui. Après, ce qui est décevant, c'est que son dernier livre est pas bon, quoi. Il a vraiment perdu quelque chose, donc il a eu vraiment une force créatrice à un moment qui ne l'a pas porté lui... alors que je trouve que la force créatrice, c'est bien dans ce qu'on produit comme œuvre, mais c'est bien aussi sur ce qu'elle va transformer en vous. Pour moi, c'est indissociable, en fait. Pour moi, l'œuvre d'art la plus importante, c'est moi-même, c'est ma vie, quoi. Non pas par égocentrisme, pas du tout, c'est pas ça. C'est que la force créatrice, pour moi, est tout à fait associée à la force vivante, en fait, de ce que vous êtes. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait des livres ratés, mais en fait, c'est pas grave, parce que ces livres ratés, je sais ce qu'ils m'ont permis, moi, je suis embêté qu'ils aient été ratés pour les lecteurs, mais je suis pas embêté qu'ils aient été ratés pour moi, parce que ça a été des opérations, ça m'a permis de faire des choses, de mieux me comprendre moi-même, de mieux comprendre le monde, d'évoluer, et de faire après, d'ailleurs, de meilleurs livres. Mais du coup, c'est ça qui est un peu gênant pour Selby. Sinon, je trouve Proust vraiment extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment à chaque fois que j'ouvre une page de Proust, je me dis mais comment il fait pour avoir un regard aussi intelligent, avoir réussi justement cette dilatation comme ça du temps, de la pensée, c'est vraiment extraordinaire. c'est Proust et Céline qui ont été vraiment très importants pour la littérature. Moi, je suis un enfant de Céline, et alors que je suis pas fanat plus que ça de Céline, je trouve que au bout d'un moment, ça me saoule cette manière orale qu'il a de parler, mais son impact sur la littérature a été indéniable. Et après, il y a j'ai eu une culture aussi de romans très populaires. Hein. Là, on parle beaucoup d'Alexandre Dumas parce qu'il y a les Trois Mousquetaires qui viennent de ressortir, mais ces grands narrateurs comme ça, évidemment. Et en fait, j'aime bien tous les bons écrivains. Et après, il y a des écrivains qui me parlent pas. Par exemple, Joyce m'a jamais parlé. J'ai essayé de le lire plein de fois, alors que tout dans son postulat littéraire devrait me parler. Et ça me parle pas. J'aime pas sa voix, en fait.
Et le polar?
Ah, le polar m'a beaucoup marqué. J'en ai beaucoup lu quand j'étais ado. Ouais. Le polar. Moi, j'ai une culture vraiment très populaire. Polar et BD. Hein. Donc, c'était polar, BD. Moi, je suis un enfant de Métal Hurlant et de La Série Noire, clairement. Ouais, donc. Et là, j'en lis plus. J'ai écrit un gros polar que je trouve très réussi, qui s'appelle Secte, qui était un fantasme d'adolescent. Je voulais écrire un gros thriller. C'est un polar fantastique. Et ça a fait partie de, ça fait partie de ma culture. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui a été publié, une collection qui m'a beaucoup influencé, c'est la collection littéraire de Métal Hurlant, justement, qui s'appelait Speed 17.
Ouais.
C'est comme ça que j'ai découvert Selby, d'ailleurs. Et il publie aussi Bukowski, qui est bien, mais qui est pas du tout au niveau de Selby, je trouve, alors qu'il a eu beaucoup plus de succès. C'était un livre qui s'appelait Sans Lande Confidence, de John Gregory Dunne, qui était et ce livre m'a vraiment beaucoup plu. J'ai dû le lire 40 fois. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Est-ce que, je vous parle de vos admirations, mais la figure du vieil écrivain, puisqu'on parle de la vieillesse, il y a des personnages d'écrivains assez âgés, est-ce que vous pensez à cette figure-là? Qu'est-ce que c'est, quand je vous en parle, l'écrivain un petit peu,
un espèce de vieux sage littéraire? Écoutez, si ça m'arrive, tant mieux. Là, pour l'instant, je suis pas ni dans cette posture, ni dans cette qualité d'être, en fait. Je pense que, donc, peut-être que ça viendra. Mais ça va un peu dépendre aussi des livres que je vais écrire encore, et de la forme que j'aurai, en fait.
Par exemple, vous évoquez, il y a des auteurs d'un seul livre. Vous dites, un livre qui tuerait vraiment, la quintessence de tout ce que j'ai envie de raconter. Il y a des écrivains, par exemple, qui sont connus que pour un seul livre aussi. Il y a le livre qui couvre tous les autres. Vous y pensez aussi à cette notion-là?
Je sais pas, c'est le cas d'Herman Melville, par exemple, avec Moby Dick, ouais. Alors que j'ai acheté ses nouvelles, là, il y a pas longtemps. C'est vrai qu'elles sont bien, mais c'est vrai que c'est Moby Dick qui reste dans la mémoire collective. Écoutez, non, pour ma part, mon recueil de nouvelles là, Au Diable Vauvert, vraiment déjà rien que ça, je vous avouerai que je peux mourir tranquille, hein, parce que je suis vraiment très très content de ces nouvelles. Je pense qu'elles sont vraiment très bonnes et qu'elles couvrent tout de même 30 ans avec mon évolution personnelle, comme l'évolution de ces 30 ans du monde. Donc après, je pense que je vais encore faire d'autres livres. Est-ce que j'en ferai vraiment un super? Vraiment un tip-top, extraordinaire. Écoutez, j'espère. À vrai dire, j'en sais rien du tout.
Oui, c'est heureusement. Vous êtes encore jeune.
Non, mais là, j'avais un très gros projet de livre. Et puis, je sais pas, il se délite un peu, là, parce que ça me semble trop complexe. C'est aussi une question de temps. Je veux dire, ça va aussi dépendre. Est-ce que je vais avoir une rentrée d'argent suffisante pour faire que ça pendant... Je pense qu'il me faudrait 2-3 ans et me concentrer sur un objet artistique, en fait. Et là, c'est pas du tout le cas. J'ai toujours... Je pense que par an, j'ai calculé, je dois coacher à peu près une centaine de projets qui sont pas les miens, entre les livres et les scénarios, ce qui est beaucoup. Quand j'y coachais, c'est vraiment que je m'investis. C'est-à-dire que je connais chaque histoire, je rebondis dessus. Et moi-même, des projets personnels, je dois bien en avoir une trentaine.
Ah oui, en effet.
Ouais, donc entre les scénarios qui n'aboutissent pas, les romans graphiques, les projets de films et mes projets personnels littéraires... Donc ça fait beaucoup. Donc si je concentrais toute cette énergie sur un seul projet pendant 3 ans, je pense que je ferais un livre énorme, à mon avis plus d'un million de signes, et qui serait vraiment dense et tout ça. Je pense que c'est vraiment une question un peu matérielle, là. C'est la question de l'argent, parce que j'en aurais tout à fait l'envie et l'élan. Après, c'est ça.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un créateur aussi de récits, cet aspect créatif?
Ah ouais, complètement. Ouais, moi c'est là. Et puis là, franchement, je pense que la narration, vraiment, je maîtrise ça maintenant totalement. Je pense que je peux écrire n'importe quoi, n'importe quand, sur n'importe quel format. Hormis, si vous voulez, je pense qu'il y a une part de talent qui est. Moi, j'ai essayé d'écrire pendant longtemps et j'avais pas de talent littéraire. Et un jour, il y a un truc qui est venu, d'où ça vient, mystère et boule de gomme. Ça, je pense que c'est un truc qu'on peut pas maîtriser, quoi. Après, on peut le... Moi, je l'ai travaillé, je m'en sers tous les jours, je l'ai fait fructifier. Mmh. Mais il y a un truc qui est un peu impalpable. Par contre, dans la technique narrative, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir. C'est vraiment quelque chose que... Il y a vraiment une technique narrative que je n'avais pas, par contre, avant. Et ça que j'ai acquis vraiment à la sueur de mes mains sur ordinateur et de ma réflexion, en réfléchissant dessus, en donnant des formations, ça m'a énormément fait progresser, en lisant énormément de livres sur le récit, et on apprend toujours des choses. À chaque fois que mes stagiaires, il y en a toujours un, c'est parce que les stages que je fais, c'est avec que des pros, en fait, c'est des écrivains qui sont publiés, des scénaristes, même des scénaristes très talentueux, qui font des succès. Donc j'arrive toujours, je pioche une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle truc auquel j'ai pas pensé, et c'est hyper enrichissant. Et donc ouais, la narration, c'est vraiment mon truc. Et après, la création d'un sens large, là avec l'intelligence artificielle, j'ai accès aux images, en fait, je peux créer mes propres images. Donc ça, c'est vraiment un champ qui s'ouvre énorme. Mais je regrette par exemple de pas être musicien. Comme j'écris des chansons, des fois je suis dans les studios, je vois les musiciens, c'est extraordinaire, le documentaire sur Ennio Morricone, mais c'est formidable de voir ce mec diriger son orchestre et tout ça, ça m'aurait plu, mais bon, ça c'est pas à ma portée parce que j'en ai ni le talent, ni la technique.
Alors ma dernière question, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, vous aimez aussi, quand on écrit, on aime se surprendre, on aime ce qui était inattendu. Est-ce que finalement l'écriture c'est pas aussi un bain de jouvence, puisque là vous parlez des mémoires intimes d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile, mais ce livre vous a beaucoup changé, Vincent Ravalec. Quelque part, est-ce qu'il vous a pas aussi, c'est pas un bain de jouvence?
Ah oui, si, c'est un bain de jouvence, mais pas tellement parce que ça me surprend, plutôt parce que ça permet des opérations, je pense, un peu alchimiques, intérieures, quoi. Et que la création, je pense, j'imagine que tous les artistes ressentent ça. Enfin, en tout cas, tous ceux avec qui j'ai pu échanger là-dessus, j'ai ressenti qu'ils ressentaient ça, ouais.
Ouais. À chaque fois, vous pensez à votre lecteur?
Assez peu, non. Je à vrai dire, non. Je me suis jamais, si vous voulez, en fait, de manière indirecte, parce que comme maintenant, si vous voulez, je sous soucie de la narration. En fait, dans les romans que j'ai ratés, il y a un problème de narration, en fait, de narration que j'ai pas maîtrisé, parce que les romans que j'ai réussi, c'était un peu un coup de bol, si vous voulez, parce que la narration collait avec l'histoire, avec l'ambiance, avec le style, avec tout ça, et que je suis retombé sur mes pieds narrativement. Et ce que j'ai raté, c'est parce que tout simplement que je ne maîtrisais pas les techniques narratives. Donc en fait, maintenant, vu que je m'en soucie, indirectement, je me soucie du lecteur. Mais c'est pas, je me dis jamais, je vais faire un livre pour plaire au lecteur. Je sais pas si j'en serais capable d'ailleurs.
Non, mais au moment où vous écrivez, vous êtes aussi votre propre lecteur.
Non, j'entends la voix du livre,
voilà.
Mais cette voix du livre ne s'adresse pas au lecteur, en fait. Mmh. En fait, cette voix du livre s'adresse à moi-même.
Ouais. Donc c'est important qu'un livre tienne sa promesse.
Ah oui, tout à fait, ouais. Et puis là je suis en train de faire une BD, là. Donc je fais une BD et je suis super content de cette BD. Ça fait des mois que j'essaie de faire une BD. Et ça collait pas. Et là, depuis quelques jours, j'ai vraiment le truc. Je les relis et je suis trop content. Donc moi, du moment que je suis content, c'est ça qui me suffit, en fait.
Bon, bah merci à vous, Vincent Ravalec, pour Mémoire intime d'un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile. Ça vient de paraître chez Fayard. Merci à vous.
Eh ben non, merci à vous de m'avoir invité, surtout de pouvoir parler si longtemps. C'est rare, donc c'est super.
Ben voilà, on est dans le temps long. Merci à vous.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous enfile avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition. Alcool à la télévision, papier clope, manque de fric. dans les lieux publics. Partout c'est la prohibition. Parole, cri, fornication. Foutre interdit à 60 ans. Ou scandale et ricanement. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés, à moins qu'ils n'apportent du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin. D'autres projets, vous voyez. Je vais baiser, boire et fumer. Je vais m'inventer d'autres cieux, toujours plus vastes et précieux. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille sans vous voir ni loi. Si je meurs, ce sera de joie.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Radio Lab à l'heure du goûter. Aujourd'hui, on est avec Alex et Red et je vais laisser Alex présenter l'émission.
Ok, dis-moi si on m'entend bien. Ok. Bah, du coup, comme il y a deux semaines, notre dernière émission, on avait fait une petite interview... d'un collectif Antifa, la Facette 7, si vous vous rappelez bien. J'espère que vous étiez là. Aujourd'hui, on reprend un petit peu le même concept avec un autre collectif qui est l'AIM Paris. Donc, on est avec Red, militant de l'AIM Paris. Je te laisse un petit peu...
Salut.
Je te laisse présenter rapidement le collectif pour les personnes qui ne connaissent pas.
Ouais, bah du coup, l'AIM Paname, c'est un collectif qui s'est monté en 2017. Donc c'est un collectif contre-culturel avec des gens issus de la scène musicale plutôt punk, hardcore et oi. Et en gros qui militent aussi à travers la musique et l'organisation de différents événements. Donc voilà, et on s'est monté en 2017 à la suite d'un double constat, l'un découlant de l'autre. Le premier constat c'était que à partir de 2010, c'est l'arrêt des différents autres collectifs contre-culturels qui existaient, qui chapeautaient un peu tout ça, comme le Scalp ou surtout le Rash. En gros, il y a eu une montée de la politisme et de la politisation de la scène. Ça, on s'en est quand même vraiment rendu compte, que ça s'est monté en flèche. Et en conséquence, du coup, c'est le deuxième constat, c'est qu'en 2016, quand il y a eu la loi travail, malgré l'arrivée d'un nombre important de nouveaux militants et militantes, bah, en fait, c'est pas arrivé dans la scène, parce que la scène ne s'est pas emparée de ce mouvement-là. Il y a bien eu quelques initiatives, mais globalement, il n'y a pas eu beaucoup de concerts soutien ou de groupes qui sont montés là-dessus, ou de clips, ou quoi que ce soit. Donc du coup, nous, on s'était dit qu'il fallait un peu, avec d'autres personnes, remobiliser et repolitiser la scène.
Ok, peut-être tu peux nous dire du coup en quoi il consiste le collectif, hein, qu'est-ce que vous faites justement pour cet objectif-là de repolitiser cette scène?
Bah du coup, ouais, là, on parle de l'objectif de repolitiser la scène, mais également un des deuxièmes, on va dire le deuxième objectif, c'est de soutenir les luttes sociales, et tous les mouvements sociaux et toutes les luttes qui ont besoin de soutien, de solidarité. Mmh. Mais en gros, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Ça va être de l'organisation de concerts de soutien. Ça va être également des graffitis pour après faire des textes et appeler soit des manifs ou soit justement à soutenir différentes causes. On a également des activités sportives. On a également participé à l'organisation de manifestations. Donc c'est assez divers. On a également évidemment des sound systems, la réalisation de différents fanzines. On a fait également quelques podcasts.
Ok,